Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. La semaine dernière, le WWF publiait son dernier rapport, Planète vivante 2024. Constat sans appel, 73% des populations de vertébrés sauvages ont disparu en 50 ans. C'est un effondrement. À ce rythme, les tortues luttes, les éléphants de forêt ou les orangs-outans ne verront pas la fin de ce siècle. Il y a quelque temps, au micro de cette même émission, nous vous annoncions avec Vincent de Victor que les populations d'oiseaux avaient chuté en moyenne de 25% en 40 ans. C'est aussi un effondrement. Aujourd'hui, c'est des insectes que nous allons vous parler. Alors faites un test, demandez aux gens autour de vous s'ils pensent que les populations d'insectes déclinent. Une personne sur deux vous parlera du pare-brise de sa voiture qui, avant, était maculé d'insectes. Alors je ne juge pas, hein, déjà parce que je l'ai sûrement déjà dit, et ensuite parce que les gens citent souvent cet exemple avec nostalgie, mais tout de même, avouez que ça en dit long sur notre rapport à ces petits animaux. Je n'ai presque jamais entendu quelqu'un regretter les sauterelles qui explosaient comme des gerbes d'étincelles à chaque pas posées dans les hautes herbes, ou les coccinelles dont on s'amusait à compter les points, les cloportes qui grouillaient sous chaque pierre retournée, ou les citrons, ces papillons qui annonçaient, disait-on, le printemps. En 2020, une étude publiée dans la très prestigieuse revue Science avait pourtant légèrement mis à mal la théorie du pare-brise. Bonne nouvelle, paraît-il, l'effondrement des populations d'insectes n'était pas si catastrophique que ça. Sauf que la base de données à partir de laquelle avait été réalisée cette étude comportait plus de 500 erreurs de nature à remettre en cause ces résultats optimistes. Mettre en évidence ces 500 erreurs, c'est le travail de fourmi que notre invité a fait. Il a été publié ce travail dans Peer Community Journal le 8 octobre 2024. Laurence Gaume, bonjour et bienvenue dans Allume la science.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheuse au laboratoire AMAP et ce travail de fourmi, vous l'avez réalisé avec une autre fourmi qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais c'est Marion Desquilbé. C'est bien ça ?
C'est bien cela.
Elle est la dernière représentante de son espèce. Pardon, j'ai perdu ma feuille. Preuve de ce qui peut arriver quand on n'y prend pas garde. Aline Perriot est dans le studio comme chaque semaine.
Bonjour.
En deuxième partie d'émission, le reportage se passe au laboratoire de mesures physiques où Guillaume Casal nous emmène sur la nacelle de spectrométrie de masse. Enfin, notre invitée de dernière minute est Françoise Font. Elle nous parle d'un rendez-vous qu'on adore à l'UM. Il s'agit de la 44e édition du Salon des champignons et des plantes d'automne qui se tiendra ce week-end à la faculté de pharmacie. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57. 56.
Laurence Gaume, donc l'étude dont on va parler, elle se base sur une base de données, c'est une répétition, mais donc sur une base de données qui s'appelle Insect Change. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que cette base de données, qui l'a créée d'abord ?
Eh bien, ce sont des chercheurs allemands qui l'ont créé. C'est une base de données qui compile des séries temporelles sur l'abondance et la biomasse des insectes. Et ils sont adjointes aussi des séries temporelles sur l'évolution de la couverture agricole, les taux d'urbanisation et le climat.
Quand vous parlez d'une série temporelle, c'est quoi exactement pour quelqu'un qui n'y connaît
rien ? C'est des séquences chronologiques d'abondance et de biomasse d'insectes, en fait, au cours du temps.
D'accord. Et alors, qui l'utilise, cette base de données ?
Alors, elle a été présentée et publiée comme une base de données de référence parce que c'est la seule mondiale qui existe sur les insectes jusqu'à présent.
Il n'y en a pas d'autres.
Il n'y en a pas d'autres. Mais pour l'instant, elle est surtout utilisée par les chercheurs allemands qui l'ont créée.
D'accord. Donc si on veut travailler sur les insectes, on part de cette, a priori, on part de cette base-là.
En tout cas, si on veut travailler sur l'abondance et la biomasse, et l'évolution de l'abondance et la biomasse au cours du temps des insectes, on part sur cette base de données. Sur la biodiversité, il existe d'autres bases de données.
Alors cette base, justement, elle a servi de base aussi à la méta-analyse publiée dans la très prestigieuse revue Science en 2020, dont a parlé Lucie tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en détail les conclusions de cette étude ?
Ben, ils ont rapporté dans leur public, donc dans Science en 2020, que les insectes terrestres ne diminuaient pas tant que ça, et que pour les eaux douces, pour ce qui était des eaux douces, les insectes augmentaient. Et ils avançaient également dans leur publication que ce constat rassurant était expliqué par de meilleures pratiques agricoles et des progrès réalisés en matière d'assainissement des eaux.
Ah, donc c'était plutôt des bonnes nouvelles qui avaient été affichées
oui,
à ce moment-là.
C'était plutôt des nouvelles rassurantes.
Et qui avaient été très médiatisées d'ailleurs, elle avait été beaucoup reprise cette étude.
Beaucoup reprise, oui. Alors, beaucoup plus que la critique qu'on en avait faite, en tout cas.
Justement, dès 2020, il y a eu des réactions. 65 scientifiques internationaux se sont élevés contre cette publication pour alerter. Vous en faisiez partie avec Marion Desquilvé. Dès le début, quels sont les problèmes que vous soulevez à l'époque?
C'était surtout des problèmes méthodologiques, parce que normalement, une méta-analyse, une méta-analyse, c'est basé sur des compilations de données. Et normalement, chaque jeu de données sont issus de publications qui sont là pour tester une hypothèse en particulier. Et le point d'orgue d'une méta-analyse, c'est de ne pas compiler des choux et des carottes, c'est-à-dire que pas compiler des jeux de données qui servent à répondre à des hypothèses différentes. Voilà.
Alors, quelle est la réaction de la revue en 2020? On rappelle qu'on parle de Science, c'est un peu une référence. Nous, en tant que journalistes, quand on cite Science en source, on se dit c'est bon, on est bien, quoi.
On leur avait dit ça, mais il y avait plein d'autres erreurs qu'on avait pointées. Et finalement, ils ont fait un erratum qu'ils ont publié, mais dans cet erratum, ils ne prennent pas 10% des problèmes qu'on a pointés en compte. C'est une des raisons pour laquelle on a décidé avec Marion Desquilbé de se pencher plus en détail sur la base de données qu'ils ont publiée un an plus tard dans Ecology et qui a servi de base à cette méta-analyse.
Alors justement, on va en parler un petit peu plus en détail. Vous l'avez vraiment décortiqué, vous, cette base de données. Et vous pointez 553 problèmes que vous catégorisez soit en erreur, en incohérence, en problème méthodologique ou en déficit d'information. Alors, on ne va pas tous les citer. Parmi ceux-là, vous montrez, par exemple, qu'il y a des erreurs de comptage. Comment est-ce que vous êtes aperçu par rapport aux données qui ont été utilisées, sans être sur le terrain, qu'il y avait des erreurs de comptage?
Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, on a fait vraiment un travail de fourmi, c'est-à-dire qu'on est allé chercher les données sources et on a regardé dans les 165 publications sources comment ils avaient fait leur sélection de données pour essayer de comprendre. Et donc on a trouvé beaucoup d'erreurs, effectivement. Vous voulez que j'en...
Il y en a beaucoup, alors on ne va pas toutes les citer, mais effectivement, pour que les auditeurs et les auditrices se rendent un peu compte de quel type de biais on parle, parce que c'est assez énorme, on va en pointer certaines. Alors d'abord, il y a une question d'absence de standardisation des données. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Donc ça concerne la densité d'insectes.
Oui, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait parmi ces 53 problèmes, il y a beaucoup d'erreurs qui sont facilement corrigibles et qu'on a pointées dans nos appendices électroniques. Mais quand il s'agit de problèmes méthodologiques, c'est beaucoup plus grave. Donc ce problème que vous pointez là c'est grave parce que, leur base de données compile des données avec des métriques différentes. Il s'agit de biomasse et d'abondance
Là, tout à l'heure, vous parliez de choux et de carottes. Là, en gros, c'est comme si on faisait des mètres et des litres, en fait.
Oui. Alors, par exemple, pour les histoires de biomasse, les données ne sont pas standardisées parce qu'elles sont exprimées, par exemple, en grammes par mètre carré ou en milligrammes par mètre carré ou alors en grammes par échantillon. Et le fait que ces données ne soient pas standardisées fait que les pentes temporelles ne sont pas comparables. Alors, eux, ils argumentent dans leur article de Science qu'ils ont fait une transformation log qui résout ce problème puisqu'ils parlent de pentes relatives, c'est-à-dire de pourcentage de changement par an. Or, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas une transformation log, c'est une transformation log de x plus 1. Et ça compromet la comparabilité des pentes temporelles et surtout l'estimation d'une tendance globale des insectes. C'est donc un problème méthodologique et d'ordre mathématique qui est grave à mon sens.
Alors, il y avait plus de types de problèmes dans le domaine de l'eau douce que dans le domaine terrestre. Et 40% des ensembles de données sur l'abondance comprenaient des invertébrés autres que les insectes. Des palourdes, des escargots, des vers, des crevettes. Ça paraît étonnant d'avoir ces animaux-là et de pouvoir les comptabiliser comme les insectes. Comment est-ce qu'ils sont arrivés dans cette base de données, ceux-là?
Alors d'abord, je dis 40% pour les biomasses, mais parfois c'est 40% pour l'abondance, mais c'est 80% pour les biomasses, donc ce qui est énorme. Et alors peut-être parce que pour les données de biomasse, c'était beaucoup de publications qui étaient russes, donc qui étaient publiées en russe d'ailleurs, donc ils ne sont pas allés chercher... nous, en décortiquant les données et en traduisant les données en français, on s'est rendu compte qu'il était possible d'extraire les insectes des assemblages totaux. Et quand on a extrait les insectes, en refaisant des modèles, on a pu montrer qu'ils avaient largement surestimé les tendances dans les eaux douces.
Juste, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que la différence entre la biomasse et, vous avez dit, les populations, c'est ça juste
Les abondances. Enfin, voilà, les abondances, c'est des nombres d'individus et la biomasse, c'est des poids.
D'accord.
Voilà, des poids d'insectes.
Dans le domaine de l'eau douce, vous citez un exemple qui est celui des moules invasives qui figurent dans la base de données. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Et bien justement, quand ils ont pris en compte l'ensemble des invertébrés totaux, donc qui ne comprenaient pas que des insectes, et bien souvent, ces tendances, elles étaient menées par soit des moules invasives, soit des vers qui sont des marqueurs de sites pollués. Et donc, c'est
et tout coup, à fait... Oui, on considère que c'est des bons indices de la santé des insectes.
Et puis, ils ont conclu que c'est grâce à l'assainissement des eaux que tout va bien.
Ok. Alors, vous citez exactement également l'exemple de mares expérimentales, donc des mares expérimentales où toutes les conditions sont réunies artificiellement pour favoriser une population, par exemple des libellules. Dans leurs études, ils intègrent ces chiffres sans prendre en compte la dimension expérimentale. Et ça, c'est sur quasiment un tiers des études, c'est ça ?
Oui, c'est un tiers des études et c'est un problème méthodologique important. C'est le fait d'intégrer des études qui sont expérimentales et qui ne peuvent pas... refléter la dynamique naturelle des insectes avec leurs perturbations naturelles.
Alors, on relève aussi dans cette étude, on parle des zones de culture et vous dites qu'elles ont été surestimées à cause de l'inexactitude des coordonnées géographiques. Comment est-ce qu'on a pu se tromper justement sur cette donnée-là ? Ça paraît facile à mesurer.
Eh ben, c'est parce que, il devait coupler les coordonnées géographiques des bases de données externes, les bases de données satellites, avec celles de leur site. Or, pour cela, pour que ce soit faisable, il fallait que la placette de leur site, là, elle ne fasse pas plus de 900 mètres sur 900 mètres. Et dans beaucoup de cas, les zones d'échantillonnage étaient beaucoup plus grandes. Et du coup, ils attribuaient une coordonnée géographique qui ne pointait pas sur une zone d'échantillonnage. Et puis, une deuxième raison pour laquelle ils ont mal évalué la couverture agricole, c'est que, en se basant sur les bases de données externes, les données satellites, là, leur logiciel qui calcule les taux de recouvrement agricole, il peut se tromper quand il s'agit, par exemple, d'une culture. Ça peut être aisément confondu avec une prairie.
Et justement, cette mauvaise évaluation des zones de culture, elle a quel impact sur l'analyse qu'on peut faire après en termes d'évolution des insectes ?
Alors, en fait, ils ont largement surévalué les zones agricoles autour des zones d'échantillonnage. Et donc, ça favorise à sous-estimer l'importance de l'agriculture dans le déclin des insectes, en fait.
Alors, on comprend que quand on dit travail de fourmi, c'est pas rien. Comment vous y êtes pris concrètement pour recenser toutes ces 550 erreurs ? Combien de temps vous avez passé sur ce travail-là avec Marion Desquilbé ?
Je crois qu'on y a passé maintenant à peu près plus de 2 ans, parce que c'était un travail énorme, qui est d'ailleurs pas du tout valorisé dans la façon dont on a évalué, nous, les scientifiques. Donc c'est pour ça que jamais personne ne le fait. Mais ça nous a paru important d'aider à la fiabilité de cette base de données qui est présentée comme une base de référence mondiale et puis dont les résultats sont portés aux décideurs publics. Donc,
et auprès du grand public, il y a un impact. Public, oui. Quand vous dites que ce n'est pas valorisé, c'est intéressant. Ça veut dire quoi, en fait ? Qu'au point de vue de votre carrière, vous n'y gagnez pas, en fait, à faire ce genre d'études correctrices ?
Non, on
n'y
gagne pas parce qu'on perd beaucoup de temps et on, sur 2 ans, on a fait une publi. Nous, les scientifiques, notre carrière, elle est évaluée sur le nombre de publications et sur les revues scientifiques, oui. L'impact des revues scientifiques.
Et ça, c'est pas considéré comme une publication, du coup, ce que vous
livrez. Si, c'est considéré comme une publication, oui. Mais pas pour le temps qu'on y a passé, on aurait pu en publier 3 autres dans nos domaines de recherche.
Alors justement, cette étude que vous publiez là, elle pose la question de la crédibilité des études dans leur ensemble, mais aussi et surtout celle de la crédibilité des bases de données. Et Peer Community parle de nettoyer les écuries d'OGIAS sur ce thème. Comment est-ce qu'on pourrait s'assurer qu'elles sont justes, ces bases de données ? Comment on peut les évaluer, justement ?
Oui, c'est un problème qui est important et qui n'est pas du tout pris en compte aujourd'hui dans la science. Et donc, y a plusieurs... j'espère que notre analyse là, d'Insect Change va servir d'exemple. Nous, on propose une méthode assez rigoureuse et reproductible sur laquelle on peut s'inspirer pour essayer de proposer des systèmes d'évaluation générales. Ça pose. Il faut arriver à systématiser ça dans la science, surtout au jour d'aujourd'hui où, en écologie, elles fleurissent ces bases de données, et parce qu'à cause de la crise de la biodiversité. Mais c'est pas qu'en écologie, c'est dans la science en général. Quand on parle de l'IA, par exemple, l'intelligence artificielle, la qualité des bases de données, c'est un enjeu crucial et auquel il faut vraiment que les scientifiques fassent quelque chose.
Donc cette grille d'évaluation que vous pouvez proposer sur la base de votre travail, elle pourrait servir aussi pour toutes ces autres bases de données.
Eh ben, en tout cas, il faudrait se poser la question d'instaurer quelque chose de systématique dans l'évaluation des bases de données.
Ça pose aussi la question, assez rapidement, mais du contrôle qu'il y a sur ces publications, en fait. Comment se fait-il qu'une publication avec autant de biais se retrouve dans Science ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?
Eh bien, c'est parce que je pense que c'était un travail de fourmi d'évaluer cette base de données. Donc, il y a des revues, des grandes revues scientifiques comme The Lancet qui avait rétracté un article sur l'hydroxychloroquine là.
Oui,
et après ça, ils avaient décidé de changer leur processus d'évaluation. Ils avaient décidé quand il s'agissait d'une méta-analyse qu'il y ait quelqu'un qui connaisse bien les données et surtout qu'il y ait un data scientist, un expert des données. Qui soit dans le reviewing process, c'est-à-dire dans le processus de relecture par les pairs, et donc aussi au niveau statistique, un statisticien, pour que les méta-analyses soient bien conduites. Donc ça peut être un exemple.
Et justement, on va dire quelques mots de ce dans quoi vous avez publié, qui s'appelle donc Peer Community, on en a parlé tout à l'heure. C'est pour le coup une organisation à but non lucratif. Vous pouvez nous expliquer un petit peu son fonctionnement ?
Eh bien, ça a été fondé par des éditeurs montpelliérains, qui sont très reconnus sur le plan international, donc ils avaient une crédibilité, et qui ont décidé de monter cette association, et puis d'avoir une démarche hyper transparente, notamment... Quand ils publient notre review, par exemple, ils publient aussi la review des... Ils la mettent sur Internet, la review des évaluateurs. Et donc, c'est une démarche transparente qui est en accord avec nos valeurs.
Voilà. Alors, on arrive à la fin de cette émission, quasiment. On ne la terminera pas quand même sans dire un mot des insectes, puisqu'on en a parlé. Donc, les populations d'insectes ne vont pas bien.
Effectivement, les populations d'insectes ne vont pas bien. Aujourd'hui, on a environ 1 million d'espèces d'insectes et les données sont très lacunaires pour les insectes, contrairement à celles des oiseaux, etc. Et c'est difficile d'évaluer leur déclin, mais grosso modo, on s'accorde à dire qu'il y a un déclin qui est important et qui est d'autant plus important que ces insectes, ils ont des fonctions primordiales dans les écosystèmes. Ce sont les pollinisateurs de nos cultures, ils aident au recyclage de la matière organique, ils sont inclus dans toutes les chaînes alimentaires, donc ils ont les conséquences de leur disparition sont très importantes pour le reste de la biodiversité.
Un grand merci à vous, Laurence Gaume, c'était vraiment très intéressant et bravo pour ce travail.
Merci beaucoup.
En espérant qu'il ait de l'écho auprès du grand public aussi. Et on passe maintenant donc à notre reportage, Aline.
Oui, et pour cette dernière visite au laboratoire de mesures physiques, nous suivons cette fois Guillaume Casali. Il est ingénieur sur la nacelle de spectrométrie de masse et il nous décrit le fonctionnement des spectromètres qu'il compare à des balances qui permettent de peser de façon très 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 précise les molécules pour mieux les caractériser.
Alors là, on a deux appareils de spectrométrie de masse. Donc c'est le labo de chimie. Donc ce sont des appareils assez volumineux, assez bruyants, parce qu'ils travaillent sous vide, donc il y a des pompes à vide. Donc on a différentes parties. On a une partie qui nous permet de séparer en fait les différents composés. Donc on travaille sur la plupart du temps sur des mélanges. Donc on a une partie qu'on appelle l'HPLC, qui est la partie qui nous permet de séparer les différents constituants d'un mélange. Et ces constituants, donc on les sépare d'un point de vue moléculaire. On va essayer à séparer chacune des molécules qui constituent notre échantillon. Et ensuite on va les analyser par le spectromètre de masse. Le spectromètre de masse, en fait, c'est une balance à molécules. On va être capable de peser de manière très très précise la masse de chacune des molécules individuelles. Et donc cette masse-là, c'est vraiment une caractéristique physique de la molécule qui va nous permettre de la décrire. C'est une des grandeurs physiques qui permet de caractériser une molécule. Et donc ces appareils-là nous permettent de le faire de manière extrêmement précise afin de pouvoir caractériser notre molécule de manière aussi très précise et d'avoir une confiance absolue de sa structure et de sa caractérisation. C'est comme pour une personne, si vous avez une personne qui pèse 70 kg, voilà, ça veut décrire une personne, mais vous avez beaucoup de personnes qui répondent à ce critère-là. Si vous avez 70 kg plus 258 grammes, ben là vous réduisez énormément les possibilités. Donc là c'est pareil, on a une précision de mesure au niveau de la masse de la molécule qui nous permet de la caractériser.
Alors juste, je vois qu'il est en deux parties cet appareil, et qui sont connectées entre elles par des fils. Il y a des grandes bouteilles avec du liquide à l'intérieur. Qu'est-ce qui circule là dans ce circuit ?
Alors ça, ce sont ce qu'on appelle les éluents, donc ce sont des solvants organiques où il y a aussi de l'eau. Ça, c'est ces liquides, en fait, ils sont entraînés par une pompe, et cette pompe, elle transporte en fait notre échantillon à l'intérieur de ce qu'on appelle une colonne. C'est la colonne en fait qui fait la séparation des différents constituants du mélange. Et en fait, c'est un équilibre entre la colonne qui est en une phase solide et les éluents qui sont en une phase liquide. Donc il y a un équilibre dans notre échantillon entre la partie solide et la partie liquide, et c'est ce qui va permettre de les séparer. Et donc une fois qu'ils ont été séparés, en fait, par la pompe, les amène à travers tous les petits tuyaux à la partie spectromètre de masse, qui est cette partie-là, qui vient ensuite faire l'analyse et la peser en fait, de nos molécules. Donc le poids de ces molécules, ensuite il est affiché sur le moniteur, là par exemple. Voilà, donc là on peut avoir différentes valeurs. Par exemple, là, quand on voit un poids de 100, c'est-à-dire qu'on a une molécule qui est à 100 grammes par mol. Donc ça, c'est l'unité qui nous sert à peser nos molécules. Donc c'est des grammes, et les mol correspondent à un nombre de molécules. Donc c'est un nombre très, très, très important de molécules. Une mol de molécules correspond à 6, 10 puissance 23 molécules individuelles. Et donc là, on sait que cette molécule-là, elle a un poids de 100 grammes par mol. Donc pour 6, 10 puissance 23 molécules, on a 100 grammes de matière. Donc là, on a deux spectromètres de masse. Ce sont deux appareils dits de haute résolution, donc avec une précision de mesure extrêmement élevée, qui nous permet d'aller très très loin dans la précision dans la mesure de la masse de chacune des molécules. Ensuite, ils ont des spécificités. Chaque appareil a ses spécificités. Ils sont capables de voir un petit peu des choses différentes. C'est pour ça qu'il y a plusieurs appareils. Chaque appareil a vraiment des caractéristiques techniques qui lui sont propres. Et comme on travaille, on a un service commun, on travaille pour beaucoup de labos différents avec beaucoup de problématiques différentes, que ce soit de la synthèse chimique pour de la confirmation de structures, que ce soit un environnement pour travailler sur des plantes, ce genre de choses. Chaque appareil a un petit peu ses points forts, ses points faibles, et on va adapter en fait l'appareil utilisé à la problématique analytique.
Et vous me parlez d'environnement, vous avez un exemple de recherche en environnement pour laquelle on a recours à la spectrométrie de masse ?
Oui, tout le dosage des pesticides, par exemple, quand on cherche à doser, à connaître la quantité de pesticides en agroalimentaire, tout ça, ça se fait par spectrométrie de masse. En fait, on va être capable de détecter les pesticides par leur masse moléculaire et donc pouvoir les caractériser, les identifier et trouver leur présence ou pas dans un échantillon agroalimentaire.
Sur le mur, il y a des manettes avec des tuyaux, et qu'est-ce qui circule à l'intérieur ?
Là, on a différents gaz qui nous permettent d'alimenter les appareils. On a la partie, je vous ai dit, liquide, qui a mené les échantillons à l'intérieur du spectromètre de masse. Et ensuite, pour faire toutes les mesures de masse, en fait, on est obligé d'avoir des gaz qui nous permettent de maintenir des pressions dans des cellules particulières pour pouvoir transformer ensuite, puisque on mesure la masse moléculaire des molécules sous forme de gaz. Et donc ensuite, c'est avec, on a de l'azote, on a de l'hélium, on a de l'argon qui vont être utilisés par le spectromètre de masse ensuite pour faire un peu transférer les ions à l'intérieur de l'appareil pour mesurer la masse moléculaire.
Merci beaucoup Aline, et à la semaine prochaine pour un nouveau reportage. Et j'accueille maintenant notre invité de dernière minute, et c'est Françoise Font qui nous présente cette semaine la 44e édition du Salon du Champignon et des Plantes d'Automne, qui se tiendra les 19 et 20 octobre prochains, donc ce week-end. Françoise Font, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Allume la Science.
Merci de m'avoir invitée.
Alors, donc, pour commencer, je viens de dire, il s'agit de la 44e édition de ce salon, c'est pas rien. Qui est-ce qui organise cet événement depuis tant d'années ?
Alors, c'est la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault qui organise cet événement. Et en partenariat, ces dernières années, avec la faculté de pharmacie, qui est le lieu où a lieu réellement l'événement pendant 2 jours.
Alors, on peut y voir beaucoup de choses dans ce salon. Notamment, il y a des expositions, des ateliers. Vous pouvez nous décrire un petit peu ?
Tout à fait. Donc, il va y avoir une exposition de champignons qui sera en fait... abreuvé en fait par tous les champignons qui auront été trouvés dans la région, si le temps le permet, mais bon, enfin, ça peut être divers lieux, en plaine comme en montagne. Il y aura également une exposition de plantes d'automne, avec des fruits notamment, qui peuvent être aussi, qui peuvent présenter une certaine toxicité. Il y aura aussi d'autres présentations, notamment des champignons, les champignons à travers les âges géologiques et des vitrines d'insectes. Donc ça met en pratique les 4 sections de la société, donc insectes, champignons, plantes et puis les pierres.
Ce qui est très raccord avec notre interview qui parlait des insectes. Alors, dans cet événement, il y a également 2 conférences. La première aura lieu le samedi à 16h. Elle donne la parole à Louise Portillo-Lemus, maître de conférence au laboratoire de botanique, phytochimie et mycologie. Alors, de quoi il sera question lors de cette première conférence ?
Alors, il sera question de champignons, bien évidemment, les cordyceps, qui sont des champignons, en fait, qui sont parasites d'insectes, en plus particulièrement de chenilles, entre autres, mais pas seulement. Et ce sont des champignons qui vont, en fait, contrôler l'insecte et qui vont lui faire un petit peu ce qu'ils veulent dans le but de se reproduire et qui vont le digérer. Donc tout ça, c'est pas très très sympathique, mais ces champignons donc sont intéressants pour la médecine, notamment asiatique, et donc ils font objet de beaucoup de recherches et de cultures. Donc dans notre laboratoire, on cultive ces champignons et d'autres pour trouver des intérêts thérapeutiques et des molécules actives. Alors ces champignons aussi ont fait objet d'une série grande publique, notamment The Last of Us, je ne sais pas s'il y en a certains qui ont vu ces champignons, où là, c'était l'homme qui était en fait atteint. Mais rassurez-vous, dans la vraie vie, l'homme ne risque rien. Seuls les insectes sont ses proies.
Bruno Bertrand hoche la tête en régie, il a vu.
The Last of Us.
Alors, la seconde conférence, elle aura lieu le dimanche à 16h. C'est Gérard Duvalet, entomologiste médical, professeur émérite et président honoraire de la Société française de parasitologie, qui parlera des pollinisateurs du futur. De quoi il sera question exactement ?
Alors, il sera question donc effectivement de changement climatique, de réchauffement climatique, qui est un thème quand même important de notre société actuellement, avec des extinctions en masse de nombreuses espèces et également d'insectes qui ont un rôle particulier et important, hein, donc tous les pollinisateurs. Donc, il faut parler non seulement des abeilles, mais d'autres insectes. Donc, il nous parlera de tout ça et de voir comment on peut envisager en fait l'évolution de ces pollinisateurs avec ce que l'avenir nous prépare ou nous réserve.
Alors, ces conférences et ce salon en général, il est en entrée libre ?
Oui, tout à fait, bien sûr.
Et il s'adresse à qui ? À des spécialistes ou au grand public ?
À tous. Aux spécialistes, au grand public, aux familles. Les enfants se régalent quand ils voient les expositions de champignons, quand ils voient les insectes. Les conférences aussi intéressent beaucoup de monde. Donc, c'est vraiment des expositions familiales. Mais il y a des petits jeux, il y a des ateliers. Donc, c'est très ludique. Il y a des choses qui sont interactives, des ateliers de confusion. Ça, c'est très important.
Et oui, on n'en a pas parlé. Effectivement, les faux amis, oui.
Oui, tout à fait. Donc, les gens peuvent venir apporter aussi leur propre récolte, venir se renseigner tant sur les plantes que sur les champignons, mais également les insectes. Et puis donc, avec ces conférences, il y a un complément d'information pour les personnes qui veulent aller plus loin. C'est plus spécifique, c'est à 16h, donc le samedi et le dimanche.
Merci beaucoup Françoise Font.
Merci à vous.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui déjà. Un grand merci à Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission, ça faisait longtemps. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.